CV.
Sur la scène intermondiale.
CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Hey, salut, salut, salut. Bon mardi. On peut mettre un peu plus de son derrière. Salut. J'espère que vous allez bien. Je m'installe en studio avec mon ami, Louis Mathieu, qui est là. Vous le savez, vous commencez à comprendre qu'il est de la partie dans leur CV pour un petit bout. Quelques jours encore. Tu vas bien? Tiens, tu peux prendre le micro.
Ça va très bien.
Ça va très bien. Si vous voulez le voir, bien, c'est sur Twitch, twitch.tv/VLVD/FM, caméra en studio qui donne directement l'angle parfait pour découvrir Louis Mathieu, qui est notre stagiaire, qui fait très bien les choses et qui a été mis au poste de la mise en onde et aux nouvelles dans leur CV. Donc, tu vas nous préparer un petit bulletin de nouvelles que tu vas nous livrer un peu plus tard.
Exact.
Et sous le soleil, parce qu'aujourd'hui, quelle magnifique journée sur Québec, la capitale nationale. On vous l'avait promis et on vous l'avait dit que Mère Nature est un petit peu bipolaire ces temps-ci. Elle faisait goûter à tout ce qu'on peut goûter en termes de météo au Québec. Ben là, c'est 10 dehors. Du gros soleil, quelques nuages tout au long de la journée. Mais on devrait monter ça, la température, jusqu'à 15-16. Je pense que c'est notre plus chaude depuis facilement octobre dernier, novembre dernier. Ouais, 16... 17 degrés, comme disait Reg, mais on ajoute toujours un petit peu plus. C'est notre Reg national. une journée comme ça. Ce soir et cette nuit, des averses, par contre. Demain, mercredi, on le sait pas. Ça va être de la pluie, de la neige, au radar. Tout ce que je vois, c'est un mélange des deux selon où est-ce qu'on se trouve. Et à partir de jeudi cette semaine, on retrouvera le soleil jusqu'à samedi avec des températures qui vont grimper. Bienvenue dans leur CV. Bienvenue à Boulevard 102.1. Si vous venez de vous brancher, c'est que votre matin a été très rapide. Vous avez manqué Reg Against le matin. Et là, on embarque dans leur CV. Vous étiez nombreux hier, vous avez fort réagi. Un bonheur de vous savoir présent parmi les textos ou encore sur Twitch. Et je prends des présences aujourd'hui avec une petite question particulière. En fait, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi vous avez choisi Boulevard 102? Ça va servir un peu plus tard à l'émission. Qui sait, il y a peut-être des concours, il y a peut-être des choses comme ça. Donc, pourquoi vous choisissez Boulevard 102.1 dans votre quotidien pour vous accompagner? Ça va être notre type de salutation aujourd'hui. Proverbe de la journée, proverbe de leur CV. Je le trouve vraiment très fort ce matin. J'ai farfouillé parmi différents proverbes de différentes cultures. Aujourd'hui, c'en est un français. Les rumeurs sont créées par des jaloux, crues par des curieux et répétées par des imbéciles. Donc, les rumeurs sont créées par des jaloux, crues par des curieux et répétées par des imbéciles. C'est notre proverbe de la journée. Ça s'applique à qui? Ça s'applique à quoi? Ça, c'est à vous de le choisir dans votre journée. Et aujourd'hui, entre autres, on va parler des gens qui sont privilégiés dans la vie, mais pas par choix et pas par action, simplement par prénom. Est-ce que, ou nom de famille, disons-le, comme ça, c'est plus précis, mais est-ce que l'initiale de votre nom de famille a un impact sur votre réussite? Je pourrais dire que oui. Puis, est-ce que c'est scientifiquement prouvé? C'est ce qu'on va vous démontrer un peu plus tard. Mais on va en jaser. Est-ce que vous sentez que vous êtes parmi les privilégiés de la vie? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est par votre statut professionnel? Est-ce que c'est votre statut personnel? Est-ce que c'est vos finances? Est-ce que c'est votre travail? Ou est-ce que vous êtes allé chercher un peu de... Et là, je le dis de façon non péjorative, négative et pessimiste, mais où est-ce que vous allez chercher un petit peu de pouvoir ou de confiance en vous, dans vos sphères personnelles, par quelque chose que vous avez contrôlé ou pas? Essayez de réfléchir là-dessus. On s'installe avec Gab Bouchard. Dans vos oreilles, c'est Remède. Ouais, c'est l'heure d'aller se couler un petit café. On revient tout de suite dans leur CV.
C'est l'hiver. Leur CV. Avec Pascal CV.
Ah, ça rentre en masse vos salutations. On dirait que ça me donne plein d'énergie. Merci beaucoup. C'est un bonheur de savoir le pourquoi que vous êtes là. C'est sûr que je voudrais nommer le nom de tout le monde, mais tu sais, j'ai un beau Derek sur Twitch qui dit « Moi, je suis une guidoune de la radio aussi. Ça schlingue, je switch. » Mais je dois avouer que j'adore Boulevard et c'est ici que j'ai trouvé un peu une famille. Puis Twitch aussi, ça fait son petit bout de chemin. Je vois toute la communauté que vous avez créée, puis vous jasez entre vous. Puis quand on a des sorties extérieures, c'est ça, on en jasait avec les collègues récemment, bien, vous vous trouvez dans les sorties extérieures de Boulevard. Vous cherchez c'est qui Beau Derek, vous cherchez c'est qui Old My Beer à Cafred, vous cherchez c'est qui Kitchbo, Clove Irish et autres. Puis je trouve ça vraiment le fun de voir qu'on est rendu une grande famille, mais au point où ça a dépassé la radio. Il y a des gens qui ont demandé à ce qu'on intègre Louis Mathieu, notre stagiaire, comme il faut, soit avec le l'a fait faire sa recherche pour le prochain proverbe. Donc, demain, Louis-Mathieu, ça sera à toi. Il me fait signe que oui avec sa tête. De trouver le proverbe. Il va falloir que tu nous impressionnes. Là. Pas une histoire de... Pas de temps donné au chien. Là. On s'attend à beaucoup de ta part. C'est très sérieux, le proverbe de leur CV, tu comprends? On est évalué là-dessus. Hey, je vous parlais de certains avantages dans la vie qu'on a, mais qu'on ne choisit pas. Suite à une lecture tellement intéressante que j'avais fait, Outliners, c'est quelque chose que j'ai lu en anglais et qui parle. Puis là, on y croit, on n'y croit pas, je le sais pas, mais ça se peut qu'il y ait des avantages qui aient vraiment rapport avec votre date de naissance. À quel moment vous êtes né dans l'année? Par exemple, quelqu'un qui va être né après tout le monde dans sa cohorte scolaire va arriver le plus jeune. Bien, peut-être qu'au niveau sportif ou autre, il va traîner un peu de la patte parce que de façon physiologique, il ne va pas s'être développé à la hauteur des autres. Tu sais, je vais faire l'exemple qu'on utilise ces temps-ci. Louis-Mathieu, notre stagiaire, fait 8 pieds 9. T'as jamais fait 8 pieds 9 jeune. D'après moi, t'as poussé one shot et fait 5 que oui. Tu peux parler dans le micro, il n'y a pas de problème. Hein. On t'intègre. Puis juste en se levant de la partie du bureau, ce matin, il a accroché la lumière que personne n'accroche avec sa tête. Est-ce que toi, ça t'a servi d'être grand comme ça dans la vie? As-tu vu certains avantages comparativement aux autres dans les sports et autres? Tu joues au volleyball, entre autres?
Oui, c'est ça. J'ai beaucoup joué au volleyball, moi. Fait que je dirais que oui, ça a été un avantage. Mais j'ai jamais été grand. Admettons, à mon secondaire, moi, j'ai pas été le plus grand. J'ai jamais été le plus grand, sauf vraiment en secondaire 5 où là, j'ai monté. Là. Mais je pense que, mis à part le sport, j'ai pas eu beaucoup d'avantages à
être
grand.
Mais c'est déjà un avantage que tu n'as pas choisi. Tu sais, ta grandeur, non. Bon, c'est sûr que des fois, les bras et les jambes vont pas suivre parce que là, il faut que tu apprennes
à tout coordination, tout c'est pas facile des fois. <là.
rire> À tout coordonner. Mais il y a des gens qui, justement, ne le savent pas et qui ont des avantages intéressants. Tu le vois, justement, dans la NFL. Tu le vois dans des ligues supérieures de sport. Que si toi, tu es né le premier de ta cohorte, tu es le plus vieux de tous, tu te développes physiquement avant les autres, bien peut-être que puisque tu vas arriver dans des équipes sportives puis tu vas être au-devant de tout le monde, bien, tu vas être le meilleur joueur. On va être recruté. On va te voir par rapport aux autres. Mais si tu avais été un an plus jeune dans ta cohorte scolaire ou tu étais avec... ou un an plus vieux, par exemple, là, dans ta cohorte scolaire où tu étais développé au même type que les autres, est-ce que tu serais ressorti du lot? On ne sait pas.
On ne sait pas,
c'est super intéressant. Puis aussi, dans tout ce qui est avantage scolaire, bien, admettons que tu es resté jeune, t'es le 4 ans de ta maternelle au lieu d'avoir 5 ans, puis t'apprends rapidement des notions d'écriture, rapidement des notions de lecture, bien, tu vas être plus développé qu'un autre 4 ans qui est resté à la maison parce que qui va être arrivé à la maternelle à 5 ans pour sa part. Puis le livre est super intéressant, Outliners. Puis on donne des exemples hein, de gens qui ont réussi comme ça, d'athlètes sportifs ou des très grands génies mentaux qu'on a connus dans le monde. Puis des fois, on analyse ça avec des petites affaires comme l'initiale de ton nom de famille. Le champ de la lecture, c'est une autre étude qui est sortie, mais la première lettre de ton nom est placé d'une façon non réfléchie. Tu sais, ça vient de nom de famille, en fait, de toute ta famille et les années qui ont passé et autres. Puis là, si tu étais bûcheron, tu peux avoir un nom de famille. Si ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était bûcheron, tu peux avoir eu ton nom de famille de ce qui découlait de sa profession et autres. Mais plus la première lettre du nom de famille est placée tardivement dans l'alphabet, plus tu risques d'obtenir une mauvaise note à l'école. On a évalué ça. Avoir un nom de famille qui commence par une des dernières lettres de l'alphabet, c'est souvent un peu pénible à l'école sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, tu es toujours le dernier appelé. Bon, ça, c'est une chose, là. Quand on prend les présences, c'est le dernier à l'appel. Mais une récente étude qui vient de montrer que un autre de ces inconvénients-là, qui est beaucoup plus handicapant encore, c'est les étudiants qui ont pour initiale une des dernières lettres de l'alphabet qui sont susceptibles d'être moins bien notés et d'avoir des commentaires plus négatifs sur leurs devoirs que ceux qui les précèdent. Puis là, tu vas me dire, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, normalement, si tu as la bonne réponse, tu as la bonne réponse. Mais pour arriver à ces conclusions-là, il y a une équipe de l'Université du Michigan qui a analysé plus de 30 millions de dossiers d'évaluation d'étudiants notés. 30 millions.
30 millions, c'est pas, ça fait beaucoup de copies.
C'est quand même une bonne recherche. Oui. Des tonnes de copies, puis ça énerve. Mais on a utilisé ces 30 millions de dossiers-là pour avoir un système de gestion d'apprentissage dans un logiciel. Donc, c'est l'ordinateur aussi qui a noté ça avec eux, mais l'analyse est focalisée sur des notes attribuées aux élèves en rapport avec l'ordre de notation de leurs devoirs par des enseignants, par ordre alphabétique, en fonction de ces initiales-là, des noms de famille. Puis on a comparé ça dans un ordre aléatoire. Donc, tout le monde est visiblement pas logé à la même enseigne. C'est ça qui est la conclusion. Vaut mieux s'appeler Alberto que Zambrano, admettons. Okay. Parce que l'équipe de recherche a remarqué que plus les évaluateurs progressaient dans la correction des devoirs, plus la qualité des notes diminuait. Autrement dit, les devoirs des élèves qui sont corrigés en dernier, qui ont des initiales de fin d'alphabet, si on a classé ça comme ça dans les dossiers, sont souvent plus pénalisés que les premiers. C'est à se demander pourquoi. Est-ce que les enseignants sont-ils moins fatigués au début? Est-ce qu'ils sont plus indulgents au départ? Puis suite à l'analyse de plusieurs copies, on se rend compte qu'ils étaient plus forts, qu'ils étaient moins forts, fait qu'on est un peu plus sévère à la fin. Mais ceux qui commencent par A, B, C, D ou E ont reçu des notes supérieures de quand même 0,3 points sur 100 par rapport à une notation d'un ordre aléatoire ou que tout le monde est jugé de la même manière. Bon, ça veut dire que vraiment, si tu prends une pile de papier classée par ordre alphabétique, par le nom de famille, les premières copies sont moins sévèrement corrigées que les dernières. Pire encore, plus les devoirs arrivaient tardivement dans la notation, plus les commentaires sur l'exercice étaient négatifs. C'est comme si les professeurs s'en permettaient plus à mettre plus de commentaires un peu négatifs dus à l'amélioration qu'on demande, dus à l'analyse de tout ce qui avait été fait auparavant. Il y a des résultats plus vrai pour les matières qui relèvent des sciences sociales, des sciences humaines, où là, sont sujettes à adaptation, à interprétation. Tu sais, une note de maths, là, si tu as le bon calcul, si tu as la bonne réponse, c'est un peu dur de mettre une note négative, mais tout ce qui est sciences sociales puis sciences humaines par rapport aux devoirs de médecine ou de formation d'ingénieur, par exemple, était moins bien coté à la fin. Puis, l'étude apporte une explication à ce phénomène-là. C'est plus les enseignants avancent dans la correction des copies, plus la fatigue officiellement s'installe.
C'est ça.
Plus on a tendance à être sévère envers les derniers devoirs à corriger. On est tanné. Puis, les derniers de l'alphabet en font les frais. Mais le problème, c'est que ton nom de famille, tu ne peux pas le changer au courant de ta vie.
Non, c'est ça, c'est plus compliqué, mettons.
Fait que c'est sur les 30 millions d'analyses, on se rend compte que d'enseignant en enseignant, pas juste Gérard, tu sais, est problématique de ce côté-là. Bien, ça se peut qu'il y ait des gens à l'école qui aient été moins bien cotés en français ou en sciences humaines ou en analyse en philo que d'autres, seulement par leur nom de famille.
C'est pas drôle, ça, quand même.
Ah, c'est pas un avantage. Non, pas un avantage. Puis c'est une université, l'Université du Michigan qui a analysé tout ça. Moi, j'adore les gens qui pensent outside of the box, à l'extérieur de la boîte, puis qui se disent, on va faire une recherche, on va faire scientifique, là.
Ben oui, ils ont poussé loin, mettons.
Les avantages d'un nom de famille ou d'un autre. Mais si je peux vous conseiller la lecture qui est d'autant plus intéressante de Outliners, c'est ce que je vais faire. Est-ce que vous êtes défavorisé de la vie? Est-ce que vous sentez que par votre statut social, les finances de votre famille, les études que vous avez choisi de faire, vous avez été avantagé ou pas? À vous de me dire. Pendant Galaxy, ouais, c'est ça qu'on s'en va écouter à leur CV. Merci d'avoir choisi Boulevard 102.1.
Leur CV avec Pascal CV.
On est de retour à l'émission avec un magnifique soleil qui plombe sur Québec. J'espère que vous en profitez avec une belle grande fenêtre à votre bureau ou encore que vous en avez profité ce matin. Il y a comme quelque chose dans le fait de se lever plus tôt que les autres ces jours-ci, puis d'aller prendre notre café, soit sur notre balcon, dans notre cour, avec une grosse doudou. Même s'il fait froid, je vous donne ce genre de devoir-là de prendre un petit temps pour vous avant que la famille se réveille, puis avant que la vie se réveille. Si jamais c'est à 5 heures du matin, faites-le, essayez-le une fois par semaine. Ce qu'on dit également, c'est que ça va vous donner bien, bien de la bonne humeur, puis beaucoup de temps pour être mentalement présent durant la routine des enfants si vous prenez un moment pour vous, que ce soit 10, 15 ou 20 minutes avant le lever de la chaumière au complet. Et je dois vous mentionner que les étudiants en technique de gestion de commerce du Cégep Limoilou organise une soirée caritative. On avait jasé ensemble là, un peu au cours des dernières semaines, mais c'est au profit d'un organisme. Puis c'est un organisme communautaire qu'on appelle Vol d'un survivant à l'autre. C'est l'événement Cap sur l'inconnu. Ça se déroule le 30 avril prochain à la Seine-le-Bourgneuf, ici, là, en bas des studios, à 19h. Et cette soirée-là, ça consiste en une conférence qui compte 4 conférenciers. Ils vont venir partager leur expérience de voyage. C'est des expériences à ne pas manquer. Moi, je suis marquée par ceux qui faisaient des conférences. Je pense que c'était les grands explorateurs. Ça existe encore. Ils font le tour de certains événements ou salles, mais ils passaient dans les écoles secondaires. Puis ça donne pas l'expérience en soi du voyage, mais quand même, c'est des photos précises, c'est des anecdotes précises, c'est tellement captivant. Et je me souviens d'un homme qui avait monté l'Everest et qui avait dit « J'ai dormi pendant 3 jours par la suite, tellement j'étais fatiguée. » Je pense que j'avais 14 ans à l'époque quand cet homme-là était venu donner une conférence, mais c'est fascinant. C'est des choses qu'on ne fera pas, tous et chacun. Certains vont le faire, mais pourquoi pas aller écouter ces conférences-là pour une bonne cause. Donc, tu soutiens un organisme important. Tu te diriges là à 19h, après l'heure du souper, après la paperasse, le 30 avril, puis tu t'en vas écouter des gens, justement, des conférenciers parler de leur expérience, puis tu te laisses enivrer par tout ça, puis peut-être même passionné par tout ça et peut-être même motivé par tout ça. Mais justement, il y a une des personnes qui va donner une conférence que c'est sur la montée de l'Everest, en fait, sur les voyages en Inde aussi, les expériences de vie en Europe. Ça va vraiment être intéressant et tous les bénéfices, là, pas un dollar ou $2 par billet, tous les bénéfices s'en vont à vol d'un survivant à l'autre et ça va permettre à une trentaine d'enfants de l'hôpital de survoler la belle ville de Québec avec les couleurs automnales en hydravion. Ça va leur permettre d'oublier aussi les traitements, la maladie peut-être pendant un court instant. Mettez ça à votre agenda. On est le 23 avril, là, donc le 30, c'est mardi prochain. On se rejoint ici en bas à la Seyne-le-Bourgneuf à 19h. Les billets sont en vente via laseyne-le-bourgneuf.com. Tapez ça sur Google. Mais ça vaut assurément le déplacement pour justement se laisser enivrer par tout ça. Les places sont quand même comptées, là. Je sais qu'il y a déjà des billets vendus. Dépêchez-vous à acheter les vôtres. Puis en plus, une pierre deux coups. Belle soirée, sûrement avec vos enfants aussi. Ça peut laisser place à ouvrir certaines portes de rêve ou encore de buts à accomplir. Des fois, ce n'est pas nécessairement d'aller monter l'Everest parce qu'on nous parle de monter l'Everest, mais c'est de repousser les limites. Il y a tellement de messages un peu insouciants derrière ce genre de conférences-là, derrière ce genre d'anecdotes-là qui sont partagées, mais c'est surtout d'ouvrir les portes à tout ce qui est autour de nous, à la culture, aux échanges, puis ces conférences-là seront assurément un excellent moment à mettre dans votre horaire, puis pour une super bonne cause, comme je vous rappelle. Super initiative du Cégep de Limoilou des étudiants en technique de gestion de commerce. À 10h28, on va faire un tour des nouvelles. Il y en a quelques-unes importantes. C'est pas une énorme journée journalistique, mais c'est une bonne journée d'annonce à mettre en lumière. Entre autres, là, on n'est pas fixé sur un troisième lien. Est-ce qu'il y en aura un? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Écoutez, le sort du troisième lien, c'est pas fait. Mais Québec se prépare là, à un plan de transformation de transport et plan de transformation d'une portion de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain. Louis Mathieu, c'est une nouvelle importante ce matin.
Oui, c'est ça. Mais là, il ne faut pas sauter aux conclusions tout de suite, là. C'est en fait la préparation d'un plan éventuel, donc d'une transformation, qui laisse sous-entendre un possible réaménagement. Et là, malgré les récents travaux pour aménager l'autoroute Dufresne-Montmorency en boulevard urbain, la CAQ se dit pas encore prête à faire de même pour l'autoroute Laurentienne. On attend encore le rapport du CDPQ avant de tout faire ça. Ensuite, Québec annonce 7,8 millions de dollars pour éviter aux familles sans logement de se retrouver à la rue. L'investissement servira entre autres pour mettre en place des services d'aide à la recherche de logement. Une partie du montant pourra aussi rembourser les frais déjà engagés par les familles pour trouver un hébergement temporaire. Tout devrait être en place d'ici le 1er juillet. Là.
Mais ça, c'est important. C'est une nouvelle qui concerne beaucoup, beaucoup de gens. Moi, ça me surprend à quel point aussi il y a des gens qui sont partis de maison en logement dans les derniers mois. Tu sais, avec le taux mensuel qui montait, le taux d'intérêt, bien, il y a beaucoup de personnes qui se sont achetées des maisons à tout ce qu'ils pouvaient emprunter pendant la pandémie, en se disant, le taux n'est pas haut. Mais il y en a qui ont re-signé, hein, puis qui vont re-signer aussi dans les prochaines semaines, ce qui fait en sorte que là, ils paient beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient cru bon dans leurs finances. Et des fois, c'est des 700, des 800, des 900 de plus par mois. Pas capable de joindre nécessairement les deux bouts en ce moment, ou encore, ils arrivent avec une grande rigidité financière. Puis ça ne fait pas l'unanimité. Là. C'est difficile de vivre dans ces conditions-là. Puis quand on pose la question, même à deux parents qui vivent ensemble, qui ont des bonnes jobs, un peu plus que le salaire moyen, puis qu'on se rend compte que ça, c'est arrivé, bien, il y en a qui se sont remis en question sur leurs choix financiers des dernières années et justement sont retournés en logement. Le hic, c'est qu'avec la pénurie, les logements valent presque aussi cher qu'une hypothèque si tu as une famille à loger. Tu vas pas mettre tout le monde dans la même pièce. Oui, il y en a qui le font puis qui réagissent très bien à ça, mais de partir d'une maison à un logement pour pas être capable, ça, c'est une autre affaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en immobilier puis en hébergement. C'est grouillant d'actualité, c'est grouillant de problématiques, même beaucoup plus que de choses intéressantes et positives à annoncer. Mais le 1er juillet, c'est aussi marqué au fer rouge. Hein? Le Québec va annoncer une aide pour les ménages en recherche de logement parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne veulent pas revivre ce qui a été vécu l'année dernière. Pardon. Mais tout a l'air de se diriger vers une grande problématique pour la suite des choses. Là. C'est presque rendu avantageux, finalement, de déménager à un autre moment dans l'année que le 1er juillet. Tu sais, des gens qui vont se mettre en couple pendant l'année puis vont mettre leur logement à louer ou en cessation de bail ou en sous-location à partir de octobre, novembre, décembre. Là, ils vont trouver l'amour, vont aménager ensemble. Mais ça, c'est presque rendu des moments avantageux pour déménager, mis à part le moins 30 degrés auquel tu dois faire face si tu as à déménager ton logement au complet. On est allé vite sur ce qui va se passer sur Laurentienne. Je veux juste remettre en lumière le fait que le ministre responsable de la Capitale-Nationale, on n'entend plus vraiment parler de Jonathan Julien. C'est comme si on l'avait mis un peu derrière. J'ai l'impression que lorsque Geneviève Guilbeault était ministre responsable de la Capitale-Nationale, on la voyait plus souvent. Faudrait questionner Jonathan Julien. En même temps, il ne va pas nous dire les vraies affaires. Je ne veux dire pas parce que c'est un menteur, mais parce que c'est des questions assez précises du genre « Est-ce qu'on t'a demandé de prendre un pas de recul depuis la cancellation du troisième lien? Est-ce qu'on te demande de ne pas être trop vocal suite au rififi entre la Ville de Québec et le gouvernement de la CAQ et les annonces qui ont été faites? » Mais c'est chaud à Québec. Puis Jonathan Julien, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans l'actualité, mais bon, on rappelle que c'est le ministre responsable de la Capitale-Nationale et il s'est récemment commis sur le dit projet de troisième lien et de transformer l'autoroute. Mais là, il avait dit que dans l'Est, on allait transformer l'autoroute Dufresne-Montmorency en boulevard urbain en vue de la phase 4 de la promenade Samuel de Champlain. Mais là, la CAQ n'est pas encore prête à en faire autant pour l'autoroute Laurentienne. C'est important à le dire. Puis il y a plusieurs projets majeurs, hein, tu le sais, Lou Mathieu, là, à Québec, dont le tramway, le troisième lien, dossier qui dépend lui aussi de ce que va recommander le CDPQ en infra au terme de l'analyse qu'on attend sur la mobilité à Québec. Mais voilà, c'est 9,2 millions de dollars décaissés pour ce bureau de projet du troisième lien. Tu le dit. On a pratiquement vidé ce bureau-là de ses employés, contrairement à ce qu'on pouvait croire, mais peut-être qu'ils sont chez eux en train d'attendre à ce qu'on les rappelle, mais l'échéancier est inconnu. C'est vraiment un branle-bas de combat, mais absolument nébuleux et non ficelé.
Oui, et pour rajouter un peu à l'information, là, la portion qui sera modifiée est située entre l'autoroute de la Capitale et rue de la Croix-Rouge, juste pour faire une petite spécification, ça va bien aller. Ensuite, dans les nouvelles encore, on oblige des citoyens de Stoneham à réviser leur installation de fosse septique. 45 jours, c'est le délai qui leur a...
C'est court, là.
Pas beaucoup.
Fosse septique, là, tu creuses, excavation, plusieurs, tu détruis ton terrain. Faut que tu trouves aussi qui va le faire, là. Je veux dire, tu creuses pas ça à pelle toi-même, là, sinon tu vas être encore là dans probablement
non,
deux
c'est
ans.
Ça. C'est des projets qui montent très, très cher. Là, il y a un résident qui explique que c'est un projet de 50 000 $. Et là, tu parlais de trouver qui va le faire, là. En fait, on impose des fournisseurs aux citoyens. Là.
Donc, il n'y a pas de stratégie de bargain de prix.
Non, c'est ça.
Tu ne peux pas aller voir quelqu'un et dire, ben là, lui, me le fait à temps. Est-ce que si je te prends, peux-tu me le faire à 10 000 de
moins? Tu
peux
utiliser ton contact non plus. Donc, tu es limité dans les options. Et donc là, si le délai se voit dépassé, les citoyens s'exposent à une amende minimale de 5 000 $. Et même si c'est 5 000 $, le maire de Stoneham, lui, réplique que ce n'est pas nécessairement l'objectif. L'objectif pour lui, c'est vraiment que ce soit changé parce que présentement, le problème est que les champs d'épuration, ça vient contaminer un petit peu le lac Saint-Charles. Ouais. Et donc là, ce qu'on veut, c'est... Puis là, il faut prendre aussi en considération que le lac Saint-Charles, c'est 50 % de l'eau potable de la Ville de Québec. Donc,
c'est une grande réserve d'eau pour Québec.
C'est ça.
Je me demande comment est-ce qu'on accueille ça, de se faire imposer quelqu'un. C'est des travaux très importants qu'on a à faire, mais des sommes faramineuses. À main levée, là, y a-tu des gens de Stoneham qui écoutent l'RCV Boulevard 102.1? Je sais que oui. Si vous avez les deux mains sur le volant, gardez-les, mais quand même. Peut-être nous donner un peu d'informations, à savoir comment vous prenez ça. Est-ce qu'il y a des gens mécontents? Allez-vous dans les conseils de ville? Pas nécessairement par rapport à la mesure, mais par rapport au délai. Est-ce qu'on vous avait aussi demandé, bien avant le 45 jours imposé maintenant, pour faire les changements, de commencer à y penser, de commencer à mettre de l'argent de côté. Moi, j'aimerais ça savoir parce que 50 000 $.
J'aimerais ça savoir aussi à quel point ça presse parce que 45 jours, c'est très peu pour ce genre d'installation.
C'est un petit peu plus qu'un mois. Mais là, si tout le monde a à faire ça, ben là, on s'entend que c'est pas chaque habitant qui a à le faire. Mais pour ceux qui sont concernés, si en plus l'équipe est imposée, ça prend combien de temps, de jours, d'heures à l'équipe pour en faire une, par exemple? Une amélioration de la fosse septique, là.
Oui.
C'est là qu'on peut se poser des questions.
Ensuite, le pavillon de la jeunesse portera le nom du défunt Guy Lafleur. C'est ce qui a appris le soleil. Une cérémonie sera tenue au mois de mai pour officialiser le changement de nom. Et là, plusieurs options ont été considérées par la famille là, durant ce processus, là, avant de confirmer officiellement le changement de nom du pavillon de la jeunesse. Et avec ce changement de nom, le Démon Blond retrouve enfin sa place près de Jean Béliveau, puisque le pavillon de la jeunesse est situé tout près de la place Jean Béliveau.
Oui.
Il y a même eu des discussions sur un changement de rue, un changement de nom de la rue près du Colisée, si je ne me trompe pas, là. Mais ça a été refusé parce que c'était beaucoup de démarches administratives, donc ça a été repoussé un petit peu.
Mais les gens se disaient « Ah ouais, OK, Guy Lafleur, oui, on l'adore, parfait, on va y aller avec ça, ce changement de nom-là. » Mais c'est pas lui qui a donné des grands coups de patin marquants là, sur la glace du Petit Colisée. Lui est allé à quelques reprises pour les entraînements avec les Nordiques, puis c'est sûr, puis, je veux dire, sa carrière junior est importante, puis sa carrière professionnelle l'est d'autant plus. Mais je pense que c'est une trace indélébile qu'on voulait laisser dans le paysage de Québec, puis pourquoi pas le faire là-bas, pourquoi pas le faire dans un endroit aussi fréquenté que ce secteur-là. Puis je pense que ça va faire bien plaisir à la famille, assurément, qu'on ne peut pas remettre en doute le fait que c'est une belle commémoration, c'est un bel honneur, un bel hommage pour l'homme que tous ont apprécié à sa juste valeur. Là. C'est un grand homme, humble, malgré une grande, grande carrière. On va traverser du côté de la rive sud parce que faut parler du maire de Lévis qui a complètement fermé la porte à n'importe quelle hausse de la taxe sur l'immatriculation. C'est un peu comme son homologue de Saint-Augustin-des-Morts, là, Gilles Laulier, a soutenu. Il a fait une conférence de presse hier en fin d'après-midi qui n'était pas vraiment prévue pour dire qu'il a parlé avec les membres du conseil, les membres de son équipe, à tout le moins, puis il n'y a pas d'ouverture là-dessus. C'est non, c'est nada, c'est niet. Il a produit une déclaration d'intention auprès du gouvernement du Québec en lien avec cette possibilité-là d'augmenter la taxe d'immatriculation en vue de financer le transport en commun. Puis non, il a dit, l'inscription de la ville visait une seule chose, c'est de corriger une injustice, la qualifiait d'injustice, dont seraient victimes les Lévisiens depuis 1992. Alors, sur chaque montant de 30 $ qui sont payés annuellement par l'automobiliste lévisien, là, au nom de cette taxe-là, la moitié, 15 $, s'en va directement au réseau de transport de la capitale, le RTC, à cause des critères qu'on dit complètement dépassés. C'est le maire Laulier qui a dit ça. Donc, Lévis a évalué ses pertes totales depuis 1992 à 26 millions de dollars. Puis on ne comprend pas pourquoi le gouvernement du Québec n'a toujours pas corrigé cette situation-là. Donc, vous allez voir un maire combatif sur cet enjeu-là dans les prochaines semaine, puis les prochains jours, il l'a pris au sérieux. Il l'a pris au grand, grand sérieux. Et peut-être terminer avec Gilbert Rozon, qui revient dans l'actualité. Vous savez, une débâcle de Juste pour rire. Et là, Gilbert Rozon, autre que ses débâcles personnelles, s'en va commenter les débâcles professionnels. Lui est bien fâché. Il fustige les actionnaires. Vous savez, c'est le fondateur du groupe Juste pour rire, Gilbert Rozon. Puis dit qu'il ne pouvait pas imaginer une catastrophe comme celle-là pour son ancienne entreprise. Puis il blâme sévèrement les actionnaires. Il en a fait un commentaire complet dans la presse aujourd'hui. Il dit que c'est inimaginable que des géants aux moyens financiers quasi illimités comme Bell, Evenco aient pu laisser couler Juste pour rire. Pour lui, c'est une honte ou presque. Là. On dit qu'on était un géant de l'humour. On roulait vers un mur en klaxonnant vu les décisions des actionnaires. Et voilà qu'on a frappé le mur. C'est sa première sortie publique depuis que l'entreprise s'est placée à l'abri des créanciers le 5 mars dernier. Puis il a voulu en parler et il a pris la façon de faire soit une lettre ouverte à la presse et il n'a pas mâché ses mots à l'endroit là, justement de grosses entreprises qui étaient aussi derrière Juste pour rire. Puis il dit, moi, je ne pouvais pas imaginer cette catastrophe-là comme ça pour la simple et bonne raison que les entreprises disposent de moyens financiers illimités tels que je vous ai mentionné. Puis il dit, bien, ça aurait dû être arrêté, en fait, freiné. C'était quasiment finalement l'entreprise qui se vidait de son sang, là, disons-le comme ça. Mais il dit, c'est un fleuron international de l'humour. Ça existe depuis 40 ans. C'est inimaginable. Pourquoi est-ce qu'on s'est rendu là? Est-ce que c'est... La question se pose, c'est-tu parce que Gilbert Rozon est la tête de Juste pour rire depuis des années? Quand tu y penses, là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent une business puis qui sont le visage de leur business. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on associe, par exemple, ce qu'ils vendent ou ce qu'ils ont construit à leur propre visage. Ils sont l'image de marque par excellence. Quand on pense à une business, ben, on voit un visage automatiquement. Je pense à Andréane Marquis et Woman's, par exemple, là, boutique de linge et autres, là, maintenant. Ben, on voit son visage à elle. Puis des fois, il y a des entrepreneurs qui se font dire, « Ouais, mais le jour où tu veux arrêter, toi, puis tu veux vendre, la valeur de ton entreprise est de façon directement
associée à
ton visage. Si tu t'en vas, tu perds de la valeur avec ton entreprise, donc tu ne pourras pas la vendre au prix que toi, tu t'étais imaginé, puisque tu quittes et où, ben, tu peux rester dans l'ombre, mais quand même. Est-ce que c'est, vu les déboires personnels de Gilbert Rozon, vous savez, il a été éclaboussé par des accusations d'inconduite sexuelle. Il avait vendu son entreprise là, à ICM Partners à 49 % ça, ça appartient désormais à CAA, mais Bell a 26 % Evenco 25 % Ça, ça s'est fait il y a 5 ans. Depuis, il a été acquitté des accusations criminelles, mais ça l'a secoué. Puis ben là, il est quand même encore dans des déboires en justice pour les mêmes choses, mais plutôt d'une autre manière où c'est appliqué. On a parlé en masse. Mais est-ce que ça, ça a joué dans l'image de Juste pour rire? C'est la question que je me pose, puisqu'il était un visage très bien affiché en entreprise. Est-ce qu'on a décidé peut-être de laisser aller un peu les choses parce que, justement, Gilbert Rozon était Juste pour rire dans la tête de ces actionnaires-là? On peut se poser la question, mais lui a décidé d'en faire une lettre ouverte aujourd'hui dans la presse. Hey, qu'est-ce qu'on a sur le menu? C'est les Shirley O, un band que Reg Laplanche affectionne énormément. On s'en va écouter Ma vie à l'heure à Boulevard 101. Merci d'avoir choisi l'émission. Vous savez, vous pouvez commenter à n'importe quel moment au 418-971-1021. Puis on revient pour parler de quoi? Un concours que vous aimez énormément ici sur nos ondes.
L'heure CV.
Quand je réfléchis, j'ai 6 cerveaux, en fait.
L'heure CV avec Pascal CV.
Boulevard 102.1.
Ah, ce fameux concours-là, il reste 3 jours. 3 jours seulement pour être capable d'être finaliste, ouais, pour partir peut-être à San Francisco sur le bras de qui? Boulevard 102, certainement pas le vôtre. On vous fera pas payer pour vous gâter. Et Variété 2020, une gang de tripeux comme Boulevard 102, comme vous, qui se sont dit, ben nous autres, gâter le monde. On fait ça au quotidien. Pourquoi? Ben parce qu'on offre des prix extraordinaires sur un surplus d'inventaire. On achète en grosse quantité, puis on est capable de le vendre à la clientèle à des prix très avantageux. Allez voir ça, leur page Facebook. C'est pas moi qui le dis, c'est pas eux qui le disent, c'est eux qui le prouvent. Aussi simple que ça. Puis on dit, ben avec toutes les économies qu'on vous fait faire puis qu'on fait par nous-mêmes, ben on va les redonner au suivant, soit à la gang de Boulevard. Merci de nous avoir choisis. Et d'envoyer nos auditeurs à San Francisco. Mais là, c'est pas simple. C'est très simple, mais c'est pas simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu te branches à Boulevard 102.1, comme tu fais en ce moment. Puis quand il y a une toune de Blink-182 qui commence, ben là, tu regardes l'heure. Ah oui, il faut tailler une montre, là, c'est aussi simple que ça. Tu regardes l'heure, puis tu dis, bling, c'est bon, ça. Oui, mais à quelle heure c'est bon? Parce que l'heure à laquelle ça joue sur les ondes de Boulevard 102.1, c'est ça qui va te permettre d'aller entrer un petit formulaire au boulevard blvd.fm, tiens, pour te dire les bonnes lettres, dans la section concours, et peut-être être finaliste. À chaque jour, on en annonce, OK? On en annonce de différentes manières, mais ça, c'est une façon essentielle pour pouvoir participer. Tu peux faire ça 2 fois par jour. Si tu entends 2 chansons de Blink dans la programmation, tu peux t'inscrire 2 fois par jour. Encore plus de chance. Et dans Gravel, dans le retour, on annonce une finaliste ou un finaliste par jour jusqu'au 26 avril. C'est trippant. Vous allez voir Blink, on est les tout sur place. Oui, en Californie. C'est pour la tournée Réunion au Chase Center. Et vous allez voir aussi une partie de baseball, les Blue Jays, contre les Giants, directement sous le soleil, avec une bonne bière fraîche. Tu bois pas, tu prends ce que tu veux. Mais sinon, une bonne bière fraîche et tu tripes ta vie parce qu'en plus, tu as de l'argent de poche, le vol y compris et l'hébergement aussi. C'est un de nos concours particuliers parce que, ouais, c'est le rock and ball. Cette fois-ci, cet automne-ci, c'est ce qu'on vous offre. Alors, c'est super simple. T'écoutes Boulevard 102.1. Et je veux quand même mentionner que du côté des États-Unis aujourd'hui, on continue tout ce qui est procès de Donald Trump. Là, à New York, il y a des choses importantes qui se sont passées. Le candidat républicain, Donald Trump, a écouté en silence l'accusation détaillée. Ça devait être lourd, ça devait être gênant. Ben, peut-être que pour lui, c'était pas gênant. Là. Il devait être assez, neutre avec son visage, comme on le connaît. Il devait avoir les petites lèvres pincées. Mais écoutez comment son équipe aurait travaillé de pair avec un patron de presse à scandale pour dissimuler toute information préjudiciable à sa campagne pour l'élection présidentielle de 2016. C'est dans l'affaire Stormy Daniels. C'est délectable ce qui se passe. Mais là, si vous tripez sur le droit puis la politique américaine et autres, c'est vraiment délectable de suivre ça, même si c'est un peu surprenant. Mais il a écouté, oui, lui, il a dû avoir toutes les oreilles ouvertes pour ça. Puis c'est une tentative finalement d'inverser le cours d'une élection, hein, rappelez-vous. Puis 4 procès au pénal instruits contre lui. Le seul qui est susceptible d'enrayer la campagne et de le faire dégringoler dans les urnes se déroule à New York et c'est cette affaire sombre d'argent qui traîne comme une casserole, disons-le, derrière lui, bien attachée à sa cheville depuis un bout. Et c'est l'affaire Stormy Daniels. Ça a débuté à Manhattan. La semaine passée, ça a servi au tribunal pour désigner 12 jurés, leurs 6 suppléants aussi, sur des critères dont je vous avais parlé. Hein, je vous avais fait faire le quiz, à savoir si vous pourriez être un bon juré. Et là, l'ancien président doit répondre à 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux au premier degré. Ça veut dire que on n'est vraiment pas concerné par le fait des activités sexuelles entre lui et Stormy Daniels. On peut savoir si c'était correct, c'était pas correct. On peut savoir si le fait d'avoir décaissé pour cacher certaines choses, c'est bon ou c'est mauvais. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi. Parce que c'est là où il y a un enjeu qui pourrait être criminel. Il aurait, ou son équipe aurait, falsifié des dossiers pour cacher où est-ce que l'argent a été dépensé. Et c'est là le problème. C'est la falsification des documents et non les actes ou le paiement pour acheter le silence. C'est fou. Moi, je trouve ça fascinant. Allez jeter un coup d'œil à tout ça. Pendant ce temps-là, M. Biden en profite, hein? C'est quand même son candidat adversaire aux prochaines élections, c'est le président sortant. Et là, il est en Floride pour les prochaines heures. Il va attaquer Trump sur l'avortement, c'est sa stratégie. Il s'en va attaquer son grand rival sur cet enjeu-là extrêmement important. Et lui a l'espoir de se tailler des croupières dans l'État du Sud-Est. Il veut avoir des votes conjointement avec sa prise de position. Rappelez-vous, l'ancien président sera pour sa part de retour là, à New York prochainement. Mais l'ancien président, c'est Donald Trump. Là, il sera de retour à New York prochainement pour ça. Mais pour Joe Biden, c'est le temps d'en profiter. Puis dire que les femmes et leurs familles ne veulent pas que Trump et ses partisans républicains continuent à démanteler leur liberté fondamentale. On dit que c'est une majorité écrasante d'électeurs qui ont rejeté des interdictions trumpistes pour l'avortement chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion. Et en novembre, toujours les paroles de Joe Biden. Ils rejetteront aussi Trump, et c'est ce qu'il affirme. Hein? Le président actuel, le président sortant, il va les viser sur des enjeux très importants. C'en est un là, qui est fort étudié pour la prochaine campagne électorale, qui est somme toute en cours, veut pas, pendant que Donald Trump est en train de subir son procès. Ouais, alors ce sont les grandes informations pour la journée. Oh, je vois le temps qui roule. Je vais vous saluer tout de suite. Tiens, je vais le faire comme ça. C'est tout pour leur CV. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans Marceau le midi, qui commence dans un instant, on va aller parler de tout ce qui est guerre Israël, Hamas, il y a des choses importantes qui se sont dites, à tout le monde en parle, dimanche, puis qui ont passé un peu sous la couverture. Mais il y a des gens qui font de l'aide communautaire, on sait, il y en a qui sont décédés aussi dans notre région dans les dernières semaines, puis qui vont nous expliquer un peu comment ça se passe sur le terrain avec ces clips-là. On a certainement aussi beaucoup de nouvelles pour vous parce que Nicolas Gagnon de la Fédération des contribuables sera avec nous, puis on va aller analyser encore un petit peu le budget fédéral, mais surtout parler de ces demandes d'accès à l'information qu'il fait pour nous, pour essayer de comprendre où est-ce que notre argent va et comment elle est dépensée. Marceau le midi, c'est dans un instant. Je vois Yannick, là, il a l'air préparé. Mais ça, c'est, des fois, c'est juste un air. Merci beaucoup, Lou Mathieu, d'avoir été là. Merci pour ton bulletin. Tu reviens demain?
Oui, toujours présent.
Toujours présent. Bien, si vous voulez le saluer, 88-971-1021 ou encore sur Twitch. Rappelez-vous qu'écouter Boulevard 101, ça rapporte, surtout si vous entendez du Blink 182 dans la formation. Mais pour l'instant, c'est le clan de la savate avec Électrique à Boulevard 102.1. Et c'est sous le soleil qu'on s'offre ça. Restez là, Marceau le midi s'en vient.